Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Et salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Aujourd'hui, c'est déjà notre épisode spécial Halloween. Et pour cet épisode, on va revenir sur une saga bien particulière, la saga qui tourne autour du personnage de Freddy Krueger. Pourquoi ? Parce qu'elle ressort dans un sublime coffret 4K Steelbooks, s'il vous plaît, bourré de bonus chez Warner Bros. Côté musique, nous écouterons The Her Song de Harley Poe, Caleb Mayer de Gillian Welch. Popcorn et Banjo, l'épisode 2 de la deuxième saison. C'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
Ho ho ho, Merry Christmas.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Allô?
Tu veux jouer avec moi?
Je te dévorerai le cœur.
Ça m'étonnerait.
Popcorn et Banjo, c'est parti. Donc comme je le disais, Warner Bros. Nous fait la joie de ressortir dans un magnifique coffret 4K composé de steelbooks inédits avec des artworks différents, l'intégrale de Freddy. Alors, Freddy Krueger, Charles, déjà j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir de Freddy, n'est-ce pas ?
Je crois que mon tout premier souvenir de Freddy, c'est Freddy contre Jason.
Moi aussi.
qui est sorti, je ne sais plus quand, j'avoue, je n'ai pas noté la date de celui-là parce que je me dis qu'on n'allait pas trop en parler justement.
En 2003, je l'ai noté.
Ouais, et bah, moi je l'ai revu il n'y a pas si longtemps quand même et c'est vraiment mauvais. Mais à l'époque, j'avais adoré le film et je connaissais, je sais, en 2003, on avait quel âge du coup ? On avait 10 ans.
Ouais.
Donc, on va dire, ouais, ça veut dire qu'on l'a vu à un âge assez jeune. Et en tout cas, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Freddy, Jason, et que je me suis intéressé aussi du coup au Boogeyman et aux films d'horreur. Et du coup, après, je me suis fait vraiment l'intégrale. Je crois qu'il y avait dans mon vidéoclub à l'époque, le Vidéo Futur, il y avait l'intégrale des Freddy.
Ouais.
Et je les ai pris un par un et j'ai tout maté, quoi. Et je crois que du coup, maintenant, c'est devenu ma saga horrifique préférée. Vraiment de tous les temps, quoi.
Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que je pense aussi que c'est notre premier souvenir parce que en fait c'est le premier qui est sorti en salle à un âge où on pouvait avoir conscience de ce que c'est qu'un film qui sort en salle. C'est-à-dire que le Freddy qui sort avant en salle, c'est 94, c'est le Freddy de Craven, le dernier là, le 7, et donc en 94, bon ben voilà.
Oui, deux ans, c'est compliqué. Ouais.
Mais 2003, tout d'un coup, on commence à, en tout cas moi, je commence à voir les affiches dans la rue, Freddy contre Jason, je trouve l'affiche assez cool pour le coup. Et je me souviens que, en revanche, il n'y a que Freddy qui m'interpelle sur l'affiche, quoi. Il n'y a que lui qui m'intéresse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah,
il vole la vedette, mais tout de suite, quoi.
Bah, moi, je trouve que... Moi, je pense que j'avais plutôt le côté le hockey.
Ah, le masque de hockey.
Ouais,
de
plus j'avais plus de références parce que même dans les dessins animés, j'ai l'impression que je vois plus ce masque de hockey. Même dans les Tortues Ninja, il y avait un héros qui avait ce masque-là. Enfin, des choses comme ça. Et par contre, moi, c'est dans le film, tu vois que c'est un gros gaillard hyper bodybuildé. Quand t'as 11 ans et qu'il a une machette, tu fais c'est trop cool. Et finalement, au fur et à mesure que tu revois le personnage de Freddy, tu dis non, mais en fait, c'est lui le cool guy, quoi. C'est
mais
lui
ouais.
Le vrai beau méchant de l'histoire.
Mais en tout cas, il m'a fallu attendre pas mal d'années ensuite parce que moi, j'ai fantasmé sur ce poster, mais je pense que j'avais un peu peur et j'y suis jamais allé. Et en fait, j'ai découvert Freddy avec le premier de Wes Craven beaucoup plus tardivement. Je pense d'avoir 20 piges, tu vois. Enfin,
ah ouais, ok.
Et donc, je suis pas un enfant de Freddy. Mais voilà, je l'ai découvert tardivement avec un regard peut-être un peu plus mature et un peu plus poussé. Et résultat, je pense que je vais en avoir un tout autre rapport. Enfin, j'ai un tout autre rapport à cette saga que toi, quoi, j'imagine. Mais pourtant, voilà, il a hanté quand même mon enfance juste avec un poster.
Ouais, et puis surtout, je trouve que moi, je sais ce que j'ai beaucoup apprécié parce que je pense que c'est à la même période où j'ai commencé à vraiment bouffer du film sans arrêt et à commencer à regarder beaucoup de films d'horreur. C'est une période où j'ai regardé beaucoup de séries B, séries Z, beaucoup de séries horrifiques. Et je crois que Freddy, aussi en termes de personnage et ce qu'il représente, c'est quelqu'un qui m'a toujours plus intéressé que Michael Myers, même que Leatherface, mais j'adore Massacre à tronçonneuse. Mais en termes de saga et en continuité, je trouve que les films sont quand même tous assez marrants. Et je crois que ce qui fait quand même une différence, c'est que c'est un personnage qui est très incarné. Par rapport à, je sais pas, des gens comme dans Halloween, dans
Mike Myers, exactement. Ou Jason, ouais.
C'est quand même des entités un peu silencieuses, donc c'est jamais très rigolo, alors que c'est vrai que Freddy a ce côté vraiment personnage, enfin c'est un vrai, il y a un vrai design de caractérisation, quoi.
Mais je pense qu'il y a sans doute des spécialistes de la question qui ont creusé là-dessus, mais moi je trouve même que c'est intéressant parce qu'il arrive en 84, le slasher vraiment c'est 78 avec la nuit des masques. Alors après il y a des gens qui expliquent que c'est Black Christmas avant premier slasher,
oui, mais quoi qu'il arrive,
la
peste sanglante
de Bava, enfin bon,
il y a Halloween 78, voilà. Il y a Vendredi 13 en 80,
voilà. Ouais. Exactement, ça c'est un peu les jalons. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a aussi dès Halloween il y a déjà un trop plein ensuite de boogeyman, de slasher, de sous-slasher, de sous-sous-sous-sous-slasher. Et j'ai l'impression que Craven, qui a quand même ce regard un peu, ce recul sur le genre depuis le début, qui fait des métafilms sur le genre avec les screams ensuite, etc., il va proposer un boogeyman qui quand même tout d'un coup est tellement différent. Il est grotesque, il a de l'humour, il parle vraiment beaucoup. Et surtout une différence majeure, jusque là à ma connaissance tous les slashers ou 90% des slashers américains, ils fonctionnent sur le sentiment du puritanisme. Et en fait le boogeyman il représente ce puritanisme, et en gros si tu baises tu meurs, et la dernière envie c'est la vierge qui a pas baisé, et c'est elle qui va se retrouver en face to face avec Jason, en général, tu vois. Ouais. Et tout d'un coup Freddy, en fait tout le côté pervers, il vient de Freddy, il est alimenté par Freddy. Enfin, c'est fou, il y a une espèce d'inversion totale des codes, quoi.
Oui, et puis même, on pourra reparler du 2, mais le 2 parle justement de frustration de la part d'une personne, et parce que cette personne n'accepte pas qui il est vraiment, en fait, se fait punir par Freddy. Ce qui est assez marrant, mais même, je crois qu'effectivement, Freddy est un des seuls à avoir ce truc-là, même c'est une saga aussi que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je remarque que c'est aussi des sagas où on a injecté de l'humour par la suite. C'est Chucky, que j'ai revu là, ouais, il n'y a pas longtemps, ouais. Et qui aussi est très incarné. Et je crois que finalement, c'est ce genre de personnage que j'apprécie plus, en tout cas à suivre sur le long terme.
Ouais, je comprends carrément. Freddy Krueger, il est quand même créé par, donc on en a rapidement parlé, mais par Wes Craven. Wes Craven, on va en glisser deux mots hein, sur ce cinéaste, qui est un cinéaste qui a quasiment exclusivement fait que des films d'horreur, de genre en tout cas, alors que son rêve, c'était de faire des grands films romantiques. Donc là, il y a un petit souci au niveau de sa carrière, mais enfin bon, il est un des cinéastes les plus respectés dans le genre. Hein. C'est lui qui a fait La dernière maison sur la gauche, c'est lui qui a fait La colline à des yeux, l'original, qui est plutôt raté, mais qui va créé comme ça un sous-genre aussi, et puis dont Aja fera un très grand film. Les Griffes de la Nuit, donc Freddy, il a créé Scream, enfin bon, c'est un peu le père de tellement de sagas. Et j'aime bien ce cinéaste parce que souvent, ces bad guys, ils ont un côté comme ça ultra violent, mais ils ont aussi un côté grande gueule, ils ont un côté moche, ils ont un côté un peu vulgaire. Qui les rend assez étonnants, quoi. Et je me souviens, je fais un petit parallèle parce que je me souviens d'un en fait la peur et le grotesque sont assez significatifs dans le cinéma de Wes Craven, et ils sont autant violents que dégueulasses, quoi, ces personnages. Et je me souviens d'un post d'un critique de cinéma que j'aime bien, que je tairais pour sa sécurité, mais qui comparait Donald Trump à un méchant de l'univers de Wes Craven.
J'adore.
Et en fait, c'est tellement juste. Je trouve ça tellement juste quand tu regardes quand tu regardes les extraits de Donald Trump, moi je ne fais que ça, je vois, tu sais, il y a le film Shocker aussi de Craven, c'est très 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 similaire en fait à cette espèce de le côté présentateur vulgaire et qui a une résonance très forte, je trouve. Et donc, voilà, premier Freddy, 1984, est-ce que tu veux nous en toucher quelques mots? Les griffes de la nuit.
Les griffes de la nuit, le pitch est très simple, hein, de toute façon. C'est l'histoire d'adolescents qui commencent à faire tous le même rêve. Ils voient un personnage au visage brûlé, avec dans la main droite une espèce de gant avec des griffes dessus. Et ils vont se faire attaquer un par un dans leur rêve. C'est le tout premier Freddy. C'est celui, c'est un de ceux que j'aime le plus, je pense, aussi. Malgré quelques petits défauts techniques parfois, mais c'est un film, je crois, qui a vraiment pas coûté très cher. Mais...
Et qui a plutôt très bien vieilli.
Et, oui, je trouve. Moi, il y a juste un plan que je trouve vraiment très laid. C'est le plan où il y a. En fait, ouais. Donc, il faut savoir que le principe de Freddy, c'est qu'il il vient dans les rêves et donc tout devient bizarre, comme enfin vraiment comme quand nous on rêve quoi. Donc le sol peut devenir du caoutchouc. On peut, je sais plus ce qu'il y a comme.
Oui, t'ouvres une porte, tu te retrouves ailleurs.
C'est ça.
Tu te fais aspirer par ton lit.
Ouais, hein. par ta baignoire. Il y a quelqu'un qui prend un bain à un moment et t'as le gant qui sort de l'eau. Enfin, il y a plein de choses comme tout peut arriver quoi dans un rêve. Et c'est Freddy qui contrôle. Et donc il y a juste ce plan là que je trouve vraiment affreux. C'est le plan où il s'étire les bras au tout début là.
Ah ok.
Il s'étire les bras pour gratter le mur et je trouve que mais ça n'a jamais marché.
Un peu comme comme on est en France, je pense que ça parlera aux auditeurs, mais un petit peu comme la sorcière dans les visiteurs.
Ah oui d'accord.
Quand elle va attraper la potion. Ouais. Plan qui m'a traumatisé quand j'étais gamin.
Hyper flippant. Mais Freddy, en tout cas, à part ce plan là que je trouve vraiment pas ouf, sinon le reste. Mais moi je l'ai revu aussi là pour l'occasion mais je trouve ça toujours aussi génial. C'est vraiment il est moins drôle que les autres. On sent que Craven a quand même envie d'imposer un vrai boogeyman, dans le sens où il est quand même. Il est censé quand même faire peur, encore. Il parle un peu, mais pas tant. Je crois qu'il apparaît à l'écran, il apparaît à l'écran 7 minutes, okay. En tout et pour tout, ce qui est que dalle.
Ouais.
Mais dès que, en fait, c'est lui qui bouffe l'affiche sans arrêt, quoi. Alors je pense qu'on compte pas les moments où peut-être qu'il y a juste le gant qui sort, des trucs comme ça. Mais c'est un personnage en fait qui apparaît très peu, mais qui est partout en même temps. Et c'est ça que je trouve assez génial, c'est qu'il y a une espèce de tension continue, en plus de ne pas savoir, enfin on ne sait jamais en plus, la frontière du réel et du rêve, on ne sait jamais quand on arrive dans cette boucle infernale de « Ah ok, là en fait ils sont en train de dormir et là c'est la merde pour eux quoi ».
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bah, évidemment en général au cinéma quand on rêve, l'acteur se réveille et puis il arrive et tout se désamorce. Et d'ailleurs, c'est aussi
une espèce de Deus Ex,
ouais,
un peu pourri.
C'est aussi
pourri,
un problème d'ailleurs. Quand on a vu beaucoup de films, on comprend assez vite parfois que c'est un rêve et on se dit bon, bah, c'est bon. En fait, tout ce qui se passe, en fait, l'acteur est safe et il se passera rien. Au final, il va se réveiller. Et bah, là, tout est inversé. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que les acteurs principaux, enfin, que les acteurs s'endorment, parce que s'ils s'endorment, ils rentrent dans le monde des rêves. Et s'ils se font tuer dans le monde des rêves, ils se font tuer dans la vraie vie. C'est toute la particularité du boogeyman Freddy.
Il y a aussi un petit côté, je trouve, un petit côté ça de Stephen King.
Ah ouais.
Où ce sont les adolescents qui voient la créature, mais pas les parents. Et en même temps, les parents, ou la ville même en entier, cachent une espèce de secret autour du boogeyman. Quoi.
C'est vachement bien ça d'ailleurs. On comprend que les parents sont au courant d'une certaine situation, c'est vraiment intéressant, ça met de la densité tout de suite.
Oui, complètement.
Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu ce qui manque dans les autres, on en parlera après, mais je trouve que le premier, il y a quand même un travail de scénario qui est dingue. Il y a aussi visuellement, moi je trouve que c'est le plus abouti, enfin, il y a des plans iconiques, franchement, en vrai. Quand elle dort et qu'il y a le mur du lit qui se déforme et il y a Freddy qui la regarde.
Ouais.
Ça, c'est magnifique. Il y a des plans aussi, le meurtre de sa pote qui se retrouve au plafond, pleine de sang. Mais ça, visuellement, c'est incroyable. Enfin,
mais franchement,
elle n'a pas vieilli du tout.
Ouais, moi, franchement, ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionné tout ça, quoi.
Aligre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Donc oui, on disait Freddy 1, Freddy 1er.
Mais Freddy 1er, non, mais on disait le meurtre de la meuf là dans dans cette espèce de chambre en fait qui tourne et ouais. En fait du coup on a l'impression qu'elle est au plafond, comme tu dis le mur, moi la scène de la
salle de bain, ouais.
La scène de la baignoire, je la trouve ouais. Géniale. En fait c'est l'ado qui prend, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs l'actrice, mais en tout cas cette actrice qui prend un bain, elle s'endort et en fait il y a vraiment le gant qui sort de l'eau et,
entre ses jambes.
Ouais. Ah oui, de toute façon Freddy
tout Freddy est très sexuel. Sexuellement
mais il est dans le premier, il est pas encore pédophile je crois.
C'est
pas dit. On dit qu'il tue des enfants, mais ouais. Voilà, c'est pas encore complètement dit qu'il a dépassé vraiment une certaine limite. Mais ouais, je suis d'accord. Ça faisait quand même quelques temps que je l'avais pas vu et je me rappelais pas qu'il y avait autant de scènes, mais mortelles. Chaque meurtre est iconique, je trouve, dans ce film-là. Même Johnny Depp avec la gerbe de sang. Enfin, c'est même la fin là, la toute fin.
La fin est cool dans la bagnole.
Ah ouais. Je trouve ça mortel aussi. Vraiment, je trouve que tout est classe dans ce film.
Ouais.
Ce qui sera moins le cas dans les autres.
Bah, en tout cas, Freddy, c'est une franchise qui va faire travailler pas mal de cinéastes, qui sont à peu près tous des cinéastes, enfin tous même, sans exception en fait, hein, des cinéastes intéressants. C'est pas autant, pour autant, des cinéastes qui vont devenir décisifs. Il y a pas, c'est pas une franchise comme Alien par exemple, où tout d'un coup il y a Ridley Scott, James Cameron.
Je sais pas comment tu peux dire ça alors que le quatrième est réalisé par notre
grand
maître à nous. Quoi.
Moi, je suis un énorme fan de... Ah oui, comment je dis qu'il ne devient pas décisif,
ouais, exactement.
Ah oui, pardon. Oui. Bah, en vrai, je pense qu'effectivement, on pourrait dire que Rennie Harlin est l'exception absolue, puisque lui, il aura une carrière décisive. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment une franchise qui fait travailler des cinéastes. Souvent, j'ai remarqué, c'est assez amusant, c'est souvent leur second film. Donc ils font leurs preuves, par exemple Rennie Harlin l'avait fait Prison juste avant, Jack Shoulder il avait fait Hidden, et puis tout d'un coup on leur donne une chance de s'exprimer. Moi ce que je trouve intéressant, je sais pas ce que tu vas me dire chez les Freddy, donc là on en a traversé un certain nombre pour préparer cette émission, évidemment on va sniper chaque Freddy ou presque chaque Freddy l'un après l'autre, mais c'est vrai que ce qui en ressort en fait quand on les voit tous à l'exception du premier de Craven, c'est que c'est des grands films tests où, en gros, les scènes de rêve, les cinéastes se lâchent et s'éclatent. Mais après, je trouve qu'il y a des gros problèmes, des énormes problématiques de scénario. Enfin, je veux dire, les acteurs, ils se font dégommer les uns derrière les autres, ils s'en foutent un peu, personne ne s'affole totalement. Mais c'est vraiment un terrain vierge pour faire du cinéma sensoriel, quoi, et inventer des trucs de dingue. Et dans dans les 2-3 premiers Freddy, je pense que le plus fou, ça reste le 3, quoi. Dans l'hôpital psychiatrique.
Est-ce que tu veux qu'on parle un peu du 2 d'abord ou on reste sur
Alors,
le 3 ?
On peut parler du 2, simplement on va avoir un problème. C'est que moi j'aime bien le 2, mais je ne l'ai pas revu. Et toi je sais que tu ne l'aimes pas et tu l'as sans doute revu. Donc tu risques d'être un peu plus acéré que moi. Quoi.
Non, mais c'est juste parce que le 2, juste pour, dans ce cas-là, juste le 2 pour la faire courte, c'est un film qui est très intéressant mais qui est très raté aussi
et qui est extrêmement respecté dans les milieux LGBT.
Dans le milieu queer,
ouais.
Et LGBT en général, ouais, complètement. C'est un film en fait qui parle d'un adolescent qui ne, en fait le sous-texte en tout cas n'avoue pas son homosexualité et qui finalement ne l'accepte pas, et à la fin il va se faire un peu punir par Freddy à cause de ça. Donc c'est en même temps tout le film change complètement des codes de Freddy. C'est presque un film plus de maison hantée, de possession, que de rêve, puisque même Freddy après arrive dans la réalité. Donc vraiment ça change beaucoup de choses. C'est un film qui est donc intéressant pour le contexte et le sous-texte qu'il propose, mais pas forcément en termes de qualité, je trouve. Il y a vraiment des gros ratés dans ce film. Et par contre du coup le 3 qui est réalisé par Chuck Russell, qui a fait The Mask quand même,
ouais, et The Blob le remake, ouais.
Pour moi je crois que c'est vraiment celui-là mon préféré pour le coup.
Tu veux nous en dire quelques mots?
Donc là cette fois le 3 se passe, le 2 c'était vraiment une petite parenthèse qui est vraiment on peut le mettre de côté parce que vraiment on n'en reparlera plus jamais dans la saga.
Il y a d'ailleurs je fais un petit saut, il y a un épisode de Jumpscare, le podcast notamment de Romain Plourde, qui est spécifiquement sur cet épisode et de la saga et qui vaut le coup d'être écouté et entendu. Voilà, ça vous permettra de creuser vers ce film.
Et en tout cas oui, le 3 se passe cette fois dans un hôpital psychiatrique avec des enfants un peu perturbés. Et l'actrice, enfin, le personnage du 1 revient en tant que psychothérapeute ou psychiatre spécialisé dans les rêves. Et bien sûr, ses enfants vont être agressés par Freddy. Et le film, je trouve, est le plus glauque de la saga. c'est en même temps là où j'ai l'impression qu'on investit vraiment émotionnellement les personnages. Donc moi, je suis vraiment... j'aime vraiment tous les persos, le geek, la nana, la gamine qui a des problèmes avec la drogue. Enfin, je trouve qu'ils ont tous des personnalités qui, moi, m'ont vraiment touché quand j'étais petit. Et donc, je crois que je retrouve encore ce côté. C'est presque un Goonies version trash, tu vois.
Version sombre, ouais.
Ouais, et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Les meurtres sont... C'est là où j'ai l'impression aussi... Chuck Russell, qui, je pense, a ce côté aussi très cartoon, comprend comment rendre les rêves complètement barges. Parce que dans le premier, il y a vraiment des scènes dingues, mais c'est pas encore... Il y a du potentiel, quoi, mais tu sens que c'est pas encore totalement ça. Et dans le 3, je trouve que Chuck Russell, mais il explose tout. Il y a vraiment tellement de séquences...
Ouais, ça va très très loin. Moi, j'ai des souvenirs affolés de cette séquence où Freddy se sert des vaisseaux sanguins...
Des nerfs et des
vaisseaux sanguins d'un des ados. Il lui ouvre les veines, il récupère les veines, en fait, et il s'en sert pour le diriger comme un pantin, quoi.
Ouais, exactement. Mais c'est une séquence, en plus, qui est vraiment... Faut imaginer, à l'époque, quand même, il n'y a pas encore trop d'effets spéciaux 3D, etc. Donc, c'est vraiment... Tu sens que c'est fait à la mano, quoi. C'est vraiment... On sent la peau qui se déchire, les tendons, effectivement, et les nerfs qui tendent vers le ciel, et vraiment Freddy l'emmène en fait pour se jeter dans le vide, et il y a ce plan que je trouve très très beau, où en fait c'est un plan vu d'en bas, du coup c'est une contre-plongée où en fait on voit le gamin qui va sauter, et en fait tu vois le ciel, et du coup tu vois Freddy qui est immense dans le ciel, mais comme un énorme fantôme, un énorme boogeyman, et il est avec ses griffes et il contrôle le gamin, et puis il va couper les fils pour que le gamin puisse tomber, quoi. Et vraiment, je trouve que ce plan, ça fait, en tout cas, il y a plein d'idées comme ça, plein de plans où tu dis waouh, ok, là je me sens tout petit, impressionné, et on sent le pouvoir de Freddy, quoi, dans celui-là, je trouve.
Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Et moi, je trouve d'ailleurs que ce qui est vachement intéressant dans les Freddy, en fait, c'est le lore, en fait, des films, l'univers, quoi. Il dépasse vraiment tous les films, quoi. Il y a un univers qui est complètement fou, tout est permis, et ils ont vraiment poussé les curseurs. On voit des trucs en fait vu que c'est traité sous l'aspect, enfin, comme on nous explique que c'est un rêve, on se permet tout, et résultat, ils ont poussé très très loin. Il y a beaucoup d'images qui sont assez choquantes, en fin de compte, dans les films.
À la vache, non, mais même là, je parlais de la gamine qui est tox, et en fait Freddy va lui littéralement, en fait, il va transformer ses doigts en seringue et lui planter dans les bras, et en fait dans les bras de la meuf, il y a déjà des 13 injections, sauf que les injections, c'est comme si elles bougeaient, donc c'est comme des yeux qui, enfin, c'est comme des bouches qui parlent, enfin, c'est hyper mélaisant. Il y a une scène,
il y a beaucoup de body horror,
il y a une scène où il y a une espèce de cochon qui parle aussi, qui fait flipper dans une maison hantée. Il y a la tête de Freddy qui ressemble à un ver géant, enfin, là c'est vraiment puis même il y a le truc iconique, il y a une meuf qui se fait écraser la tête par une télé. Et t'as Freddy Krueger qui dit « Welcome to Primetime, bitch !» et qui l'encastre, quoi.
Il joue le présentateur télé d'une émission qu'elle regarde au départ.
Ouais, exactement. Et puis
elle regarde la télé, puis il est dans la télé, présentateur télé, elle se rapproche. Et
puis après, il y a sa tête qui sort de la télé, et en fait, sa tête a des antennes de la télé. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est là où, en même temps, c'est là où tu vois tout le côté grotesque et tout le côté barjo, et Freddy parle beaucoup plus qu'avant. Ça y est, moi, c'est vraiment avec celui-là où, en fait, j'ai l'impression que les auteurs ont trouvé le ton de ce que va être Freddy. Et c'est aussi là où, en même temps, on commence à mettre, comme tu disais, du lore aussi. On recontextualise qui est Freddy et pourquoi, comment, en fait, on va voir comment il est né, de quelle manière. Et donc, il y a tout, presque un truc un peu gothique qu'on va retrouver après dans d'autres épisodes, d'ailleurs, je trouve. Mais pour moi, le 3 de Russell, il est vraiment d'une qualité assez rare, en fait, parmi tous les épisodes de cette saga, quoi.
Et puis, ce qu'on disait, la différence entre un Jason qui est une masse de 2 mètres sur 2 mètres, ultra musclé, et un Freddy qui est en fait un mec de taille normale, assez maigre, enfin, je veux dire, qui physiquement n'a rien d'un bodybuilder ou d'un passionné de la salle, pour le faire fonctionner, il fallait aussi quelqu'un qui sache comment cabotiner, comment jouer. Freddy, il a un côté presque méchant, acteur de théâtre un peu, enfin, comme on pourrait le voir au théâtre, c'est-à-dire qu'il en fait des caisses, mais il fallait trouver le bon acteur qui puisse à la fois en faire des caisses et en même temps qui ne nous perde pas, quoi, en tant que spectateur. Et bah, cet acteur, c'est Robert Englund. Et il crève l'écran. Enfin, je veux dire, il est extraordinaire. Il a fait beaucoup d'autres films. Mais bon, ça sera à jamais Freddy, je pense, et personne d'autre.
Mais c'est dingue à quel point. Je sais pas si. Je pense que dans. Si, dans Chucky, c'est aussi comme ça d'ailleurs, en fait. Le Robert Englund n'a jamais été changé. Enfin, on a essayé dans le 2 parce qu'il demandait un cachet trop gros, apparemment. Et finalement, on a vu que les essais marchaient pas avec les autres acteurs. Donc en fait, on lui a refilé le rôle. Et en fait, même quand on voit le remake avec l'acteur là, oui, qui joue dans Watchmen. Je sais plus comment il s'appelle, cet acteur, mais ça marche pas du tout, quoi. On sent que Robert Englund...
Sorti en 2010, le remake du premier.
Ouais, qui est vraiment pas terrible. Hein. Mais,
moi, j'ai bien aimé parce qu'on... En fait, moi, je le vois pas comme un remake, mais comme un prolongement. Enfin, en fait, on les voit vraiment. On voit les parents assassiner Freddy pour venger leurs enfants. Et donc, on voit... ils mettent le cinéaste met des images sur l'histoire qu'on a dans le premier de Wes Craven. Et ça, je trouve ça assez intéressant,
ouais,
et complémentaire.
Et puis, il y a un petit twist aussi... sur le fait que Freddy est peut-être innocent.
Ouais,
et ça, je trouve que c'est un twist qui est très intéressant dans le film. Malheureusement, c'est pas assez exploité.
Ouais,
mais en tout cas, Robert Englund, oui, c'est fou à quel point il est irremplaçable, quoi. C'est très dur de trouver un autre acteur pour faire le rôle là-dessus.
Et en tout cas, le jour où, pour préparer cette émission, j'ai lancé le premier Freddy que je voulais regarder, qui était le numéro 4, j'ai appris le lendemain, figure-toi, que ce cher Robert Englund a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.
J'ai vu ça aussi.
Donc voilà, est-ce que j'étais dans un rêve ou pas dans un rêve, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est cool. Je précise quand même que c'est 50 à 60 000 dollars pour avoir son étoile. Donc,
ça veut dire que tout va bien pour lui.
Il a casqué, quoi. Enfin, lui ou son agent, j'en sais rien. Charles, tu veux nous faire une petite chronique musicale ?
C'est mon moment.
1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec deux morceaux assez intenses. Alors je vais commencer en douceur quand même avec The Hearth Song, comprenez donc la chanson du corbillard. Alors, il s'agit d'un texte dont on peut remonter les traces au début du 19e siècle, mais la chanson devient vraiment populaire pendant la Première Guerre mondiale. Cette chanson est donc une reprise du groupe Harley Poe, qui date de 2010. Et en fait, l'histoire qui va nous être racontée commence par l'arrivée d'un corbillard, et on nous dit qu'il ne faut pas rire car on pourrait être le prochain. Et là va s'en suivre une liste non exhaustive de ce qui peut nous arriver après notre décès. Alors je cite en faisant une traduction assez libre. « Les vers rampent à l'intérieur, ils mangent tes yeux, ils mangent ton nez, ils mangent la gelée entre tes orteils. » Voilà, il y a aussi un gros ver aux yeux roulants, rampe dans votre estomac et hors de vos yeux, ton estomac devient d'un ver visqueux. Donc sachez-le, et pour info, cette chanson, c'était apparemment, de ce que j'ai pu voir sur internet en tout cas, c'est une comptine pour enfants à la base. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de Freddy pour traumatiser des gamins. On pouvait juste chanter cette chanson. Musicalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait passé l'année dernière, à Halloween dernier, en fait, à Violente Femme, qui est un groupe de, on va dire, de folk punk, c'est-à-dire des guitares acoustiques, mais qu'on va un peu savater. Et la voix du chanteur est pareil, un peu nasillarde. Et vous allez voir que l'ensemble donne du coup ce ton assez grotesque et dérangeant. Et une chanson qui avait déjà pas besoin de grand-chose pour que ça nous mette un peu mal à l'aise. Le deuxième morceau, lui, est bien plus sérieux, et il s'agit de, donc, le morceau va être Caleb Meyer de la chanteuse Gillian Welch, qui est sorti, ce morceau est sorti en 98. Et là, pour remettre juste un tout petit peu de contexte, avant de parler de l'histoire du morceau, en fait, il existe dans la musique country un sous-genre qui vient à la base de la folk, qui s'appelle le murder ballad. Alors en fait, il s'agit de textes racontant des histoires de meurtre, de vengeance, de justice personnelle, de crimes passionnels, comme on disait à l'époque, hein. On va pas se mentir, c'est un genre qui a parfois très mal vieilli. Dans les plus connus, en tout cas, dans moi, ce qui me vient en tête, il y a ce morceau culte de Johnny Cash qui s'appelle Cocaine Blues, où le chanteur va nous parler en fait d'un homme qui prend beaucoup trop de coke et qui va tuer sa femme, puis s'enfuir avant d'être arrêté par la police. Tout ça sur un rythme très entraînant, avec un chant assez comique et assez décomplexé. Alors ça peut être en tout cas comme ça, mais ça peut être aussi bien sûr dramatique, hein. Mais maintenant que ce contexte est un peu posé, on va retourner la chanson. Donc, en plus d'être un murder ballad, Il s'agit également, en termes de style, de musique qui vient plus des Appalaches, donc cette région montagneuse qui comprend l'Alabama, la Géorgie ou encore le Mississippi, et qui parle beaucoup de ruralité dans les textes. Et Gianne Welch va donc nous raconter l'histoire sordide et violente de Nellie Kane, une femme qui se retrouve seule chez elle alors que son mari est parti travailler et qu'un individu qu'elle connaît, le fameux Caleb Mayer du titre, va tenter de la violer. Elle réussira à le tuer avec un tesson de bouteille qu'elle lui plantera dans la gorge. Et donc vous allez voir qu'en plus de soigner son histoire, Gillian Welch parvient aussi à y apporter une vraie dimension psychologique, notamment grâce au refrain qui exprime le traumatisme de la victime. Il nous dit en substance que même lorsqu'on survit à un drame, celui-ci nous marque à jamais, il reste là vraiment comme un fantôme. Mais pour continuer à vivre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est avancer. Deux chansons, deux ambiances pour un Halloween entre rire macabre et frissons bien réels. Bonne écoute.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Don't ever laugh as a hearse goes by, for you may be the next to die. They wrap you up in a big white sheet, from your head down to your feet. They put you in a big black box and cover you up with dirt and rocks. And all goes well for about a week, and then your coffin begins to leak, and the worms crawl in, the worms crawl out, the worms play pinochle on your snout. They eat your eyes, they eat your nose, they eat the jelly between your toes. A big green worm with rolling eyes crawls in your stomach and out your eyes. Your stomach turns a slimy green, and pus pours out like whipping cream. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you're dead. And the worms crawl out, the worms crawl in, the worms that crawl in. Their friends and their friends too, they all come down to chew on you. And this is what it is to die. I hope you had a nice goodbye. Did you ever think as a hearse goes by that you may be the next to die? And your eyes fall out and your teeth decay, and that is the end of a perfect day.
Come on.
vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Alors, pendant cette pause musicale, on a eu un petit input de Enrico Mastro Giovanni, donc référez-vous à lui s'il dit que des conneries, qui est notre réalisateur passionné et passionnant de l'émission, et il nous explique un, en tout cas, des départs de la légende et de comment Freddy est né vient d'une histoire d'immigrés qui débarqueraient en cargo aux États-Unis et puis qui auraient commencé à faire des rêves et certains seraient morts d'arrêt cardiaque, etc., en se réveillant. Et donc, serait née une espèce de phobie du sommeil, en fait, la peur de s'endormir. Une histoire qui est peut-être vraie et qui aurait, en tout cas, alimenté Wes Craven pour écrire le premier scénar. Et toi, Charles, tu me disais aussi que Craven...
Oui, de ce que j'ai entendu, Craven en fait rêvait quand il était enfant qu'un homme en fait le matait quoi pendant la nuit, clairement, ou alors qu'il l'attendait dehors. Et donc en fait, c'est, je sais pas si c'était des paralysies du sommeil ou quoi, mais en tout cas il disait qu'il rêvait que quelqu'un était là, toujours une présence, donc un rêve finalement assez classique, mais qui apparemment lui aurait inspiré Freddy.
Mais d'ailleurs dans le 7, hein, Freddy 7, où c'est d'ailleurs Craven qui reprend les manettes de cet épisode, c'est un espèce de méta-film qui est vachement intéressant, je trouve, parce que pas mal de personnes jouent leur propre rôle, on reprend les acteurs du 1, etc. Et il y a Wes Craven qui joue son propre rôle et il explique qu'il s'est remis à faire des cauchemars et que donc il peut de nouveau se remettre à écrire ce nouvel opus de Freddy.
Ouais, mais même il y a Bob Shaye qui joue, qui est le producteur de New Line Cinema, qui produit donc le film et qui a produit aussi Le Seigneur des Anneaux, et qui joue dedans. À la base, je sais que Craven avait proposé aussi au mari de l'actrice, qui travaille vraiment dans les effets spéciaux, de jouer son propre rôle aussi. Donc il y a vraiment, une scène d'enterrement, tu vois certains acteurs du 3, du 4, qui apparaissent juste en caméo. Enfin, il y a vraiment, le 7, oui, il est vraiment... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de clins d'œil et beaucoup de passes avec la réalité.
Et il est intéressant parce que on nous explique que l'actrice principale du 1, qu'on retrouve dans le 7, donc forcément avec 20 ans de plus, on nous explique dans le scénario que tous les autres films, le 2, 3, 4, 5, 6, sont des films de cinéma. Et qu'en fait, là, il n'y a plus de films avec Freddy. Et que donc, dans ce numéro 7, Freddy potentiellement viendrait dans la vraie vie pour l'attaquer. Mais donc, il y a aussi une manière, c'est pas très clair, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière un peu de Wes Craven de dire, ok, j'ai fait le 1, et le 2, 3, 4, 5, 6, vous avez fait des films. Et moi, je vais faire le 7 où je vais vous expliquer que ce que vous avez fait, ça n'est rien d'autre que de la fiction. Et je vais réinjecter Freddy dans la vraie vie. Enfin, un peu, tu vois, il y a une espèce de posture façon, assez marrante, quoi.
De toute façon, si on commence à parler sur le 7 avant de revenir peut-être au 4, 5, 6. Le 7, effectivement, c'est un film vraiment complètement méta parce que donc, l'histoire, c'est littéralement, on prend tous les acteurs qui ont joué dans le premier Freddy, comme on disait, et qui finalement vont jouer leur propre rôle. Et Freddy va revenir les hanter, mais dans le monde réel. Et tout le discours méta que normalement je n'aime pas du tout dans le cinéma, j'avoue, je suis pas fan de ça. Je ne sais pas pourquoi, là ça fonctionne très bien.
Ah, ça marche hyper bien.
Mais je sais vraiment, là je saurais pas dire à quoi c'est dû.
Bah, c'est dû à Wes Craven, mec, c'est tout.
c'est comme ça, le génie de Wes Craven.
Non, mais pour le coup, c'est fait, je trouve que c'est fait avec vraiment beaucoup, beaucoup de. C'est tellement décomplexé qu'on y croit, quoi.
Ouais, mais c'est vraiment étonnant. Et ce qui est très chouette, je trouve, c'est de retrouver aussi, un peu comme, je sais que les gens ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais comme Matrix 1, 2, 3 et le 4 sont réalisés par les mêmes personnes, mais avec 20 ans d'écart, c'est quand même la vision d'un auteur qui revient à une franchise pour dire, ok, voilà, maintenant c'est ça pour moi, tel ou tel truc, quoi. Et de voir Wes Craven qui a fait le premier et qui fait le dernier, avant en tout cas le remake, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette vision de la vision du même auteur, mais 10 ans plus tard, sur toute la franchise, et il décide de faire ce discours très méta, tout en ayant un aspect conte, parce qu'il y a toute une histoire de Hansel et Gretel aussi, et on sent qu'il revient aussi à quelque chose de beaucoup plus... il revient à l'effroi. On sent que Freddy, il est beaucoup moins dans la gaudriole, il est beaucoup moins bouffon.
Ouais. Il a changé physiquement d'ailleurs. Il est plus sur des tons verdâtres.
Ouais, j'avoue, je suis moins fan du design.
Moi aussi.
Même du gant et tout ça. En fait, parce que là d'ailleurs, il a plus de gants. En fait, c'est presque plus une espèce de...
Un animatronique.
Animatronique, mais qui représente en fait une main décharnée à vif. Et en fait,
ah oui, oui, pardon, en fait, non, parce qu'il y a aussi le gant.
Oui, exactement, ouais, mais c'est à peu, je trouve c'est le même. Et on voit les phalanges, et en même temps, il y a les griffes sur les... Enfin bon, c'est le... je ne suis pas fan du tout du design, mais à part ça, je trouve que la fin est très conte, très gothique, comme dans le cinquième. Il y a beaucoup plus d'horreur et beaucoup plus de, d'angoisse que dans les autres films. Donc vraiment, on sent qu'il... Il dit effectivement aussi en substance, bon là on revient à ce qu'était vraiment Freddy parce que les autres films étaient vraiment pas terribles.
Ouais, moi j'aime
qu'il
bien.
Dit un peu ça quoi.
En tout cas, il revient avec une certaine autorité et pour le coup, il fait un bon film quoi. Moi j'ai trouvé excellent aussi le set. J'ai passé un très bon moment.
Ouais, mais moi à chaque fois que j'en parle à des copains, ils sont vraiment très mitigés sur le film et pour moi, ça fait vraiment partie des très belles surprises et même d'une en fait ce qui est rafraîchissant dans les Freddy. C'est que j'ai l'impression de voir toujours une nouvelle relecture, quand même. Alors même si entre le 3 et le 6, c'est quand même un peu la même chose, mais c'est quand même des réals différents qui essaient de proposer, en
de
tout cas...
De mettre leurs pattes.
Exactement, de proposer des choses. Mais le 7 a vraiment une autre, j'allais dire, une autre grandeur, quoi. Mais
même visuellement.
Une autre prestance.
Il a de la gueule, visuellement.
Il a de la gueule. Je suis... pas forcément ou alors en tout cas je trouve que les autres ont de la gueule aussi tu vois
ouais,
moi je trouve qu'il y a un travail sur le matte painting sur les décors moi même le 5 qui est beaucoup plus glauque beaucoup plus dans la fantasy mais vraiment dans le gothique moi je le trouve vraiment il y a des plans très très beaux hein, mais c'est juste que le 7 a, on revient dans le réel
et il y a un détail marrant d'ailleurs dans le 7 je sais pas si t'as remarqué mais à un moment donc il y a ce rapport entre cette mère et son fils qui n'arrive pas à dormir Il y a une forme, il y a un peu de Shining d'ailleurs avec cet enfant qui voit des choses, qui dit à sa mère des choses que sa mère ne comprend pas, etc. Et puis surtout, il y a cette scène incroyable où il y a un docteur qui reproche à la mère d'empêcher le fils de dormir et surtout, il lui reproche, il demande à la mère si elle lui a montré les films d'horreur dans lesquels elle joue et qu'il ne faut pas qu'elle s'étonne que son fils n'arrive pas à dormir s'il a vu des films d'horreur. Et en fait, je trouve ça génial. J'ai un peu l'impression que c'est Wes Craven qui se fout un peu de la gueule de tout ce qu'on dit sur les films d'horreur. Je pense qu'il avait déjà fait Scream, et tu sais, il y avait ce gamin qui avait assassiné quelqu'un en mettant un masque de Scream, de sa famille, etc. Faudrait regarder tout ça.
Scream, c'est 96.
97, non
hein, 16. Donc c'est avant, du coup.
Donc c'est avant le 7, c'est quelle année
c'est 94.
Ah ouais, non, c'est
94,
juste avant 94.
Mais du coup, il prépare en tout cas son discours méta.
En tout cas, ouais, d'abord, il prépare son discours méta. Et puis, ouais, c'est vrai. Et puis, il y a toute cette idée. On dit toujours les films d'horreur rendent dangereux, rendent violents. Les films... Et j'aime bien parce que quelque part, il s'en amuse déjà d'une certaine manière avec un certain je sais pas si c'est du cynisme ou juste de l'humour, mais j'aime bien cette scène vraiment. On reproche à cette femme qui joue dans des films d'horreur d'avoir montré ses films à son gamin et il ne faut pas s'étonner qu'il fasse des cauchemars, quoi, en gros.
Ouais, ouais.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
On va faire un petit saut en arrière et puis on va revenir en 1988 auprès de notre cher Rémi Harlin, hein, notre père à tous.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, juste en deux secondes, est-ce que Thomas, tu peux expliquer pourquoi Rémi Harlin est notre dieu, en tout cas à nous?
Rémi Harlin, c'est un cinéaste... finlandais, qui adore mettre un drapeau finlandais dans chacun de ses films, qui tourne non-stop depuis 40 ans, qui a notamment fait le second Die Hard, le second Die Hard, qui est bien, moi j'aime bien.
Qui a fait Peur Bleue.
Et qui a fait l'extraordinaire Peur Bleue. Et puis qui a fait surtout L'île au trésor.
L'île aux pirates.
L'île aux pirates.
Tu diras mieux en anglais que moi, Cutthroat Island.
Cutthroat Island. qui est un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Tous les gens sur ce tournage ont fait faillite dans leur carrière. Quoi. Toutes leurs carrières se sont effondrées. Tout le monde s'est effondré, sauf Rémi Harlin qui, on ne sait pas trop comment, a réussi à signer un deal et puis à reprendre dès l'année d'après ou les deux ans après. Il s'est relancé, il a fait 3-4 films suivants. Maintenant, il tourne en Chine. Bref, c'est un réalisateur dont on a l'impression qu'il a toujours 60 coups d'avance sur tout le monde. Il n'arrête pas de tourner. Il a beau faire les plus gros flops de l'histoire du cinéma, il est toujours dans le game.
Ouais, c'est dingue. Mais vraiment, il a coulé une boîte entière. Il a massacré des carrières, le gars. Enfin, littéralement.
Y compris celui de sa femme de l'époque, hein,
Gina Davis,
qui avait le premier rôle. Ouais,
ouais, et c'est fou. Enfin, c'est pour ça que nous, on le trouve brillant, quoi. Parce que le mec, il arrive quand même encore à tourner. encore à faire des films tranquilles. Et le mec n'a jamais arrêté, quoi. Il a massacré tout le monde. Et lui, il est encore tellement bien. Tu le vois sur Instagram avec sa femme sur des plages paradisiaques, là.
Non, c'est tout très, va bien très pour étonnant. Lui. Et pour faire un parallèle, par exemple, c'est le même genre de carrière. Il y avait Ron Underwood. Pour moi, c'est un peu le même genre de carrière. Il faisait des grosses comédies, Les Tremors, etc. Il marchait très bien. Puis tout d'un coup, il a fait plutôt Nash. Et aujourd'hui, Ron Underwood, il fait des épisodes de séries télé qui sont ce qu'elles sont, quoi. Mais c'est là, il a pas la carrière de Ren Yarling.
Non,
quoi.
C'est là où on voit les gens qui font un truc foireux, ils sont blacklistés. Ren Yarling, il coule une boîte en, il coule un studio.
On signe 4 films derrière avec lui. Quoi.
je trouve ça génial.
Donc Ren Yarling, deuxième long métrage qui sort donc le 4e Freddy. Là, vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un Freddy ridicule en termes de scénario. On croit pas du tout ces jeunes qui meurent les uns après les autres. C'est un peu ce que j'expliquais au début. J'aime bien le personnage du père alcoolique qui veut pas que ses enfants sortent parce qu'il a peur de les perdre. Ça, lui, je le trouve intéressant. Pour moi, c'est le seul qui a une réaction à peu près logique. En revanche, en termes de body count et en termes de scène de mise à mort, c'est dinguissime. Ouais. Je trouve le film génial.
Ouais, il est moins glauque. Et plus, là, vraiment, ça y est, on rentre dans la pantalonnade absolue, quoi. Mais pour la faire courte, ça se passe juste après le 3.
Ouais.
On retrouve les protagonistes qui se font, en fait, tous éliminer un par un par Freddy pour finalement... en fait, on va suivre, du coup, d'autres personnes. Je sais plus si c'est le... Ah, c'est la meilleure amie du lycée ou de la fac, maintenant, de l'actrice, du personnage principal du 3, c'est ça?
Ouais.
Et Freddy ressuscite en se faisant pisser dessus par un chien.
Ouais.
Voilà. ça c'est l'intro. C'est un chien qui pisse du feu et qui réveille Freddy. Voilà, ça donne le ton de ce qu'est le scénario. Voilà.
J'avais oublié ça. J'avais
Ouais, le chien, juste un chien qui pisse des flammes et Freddy revient en mode ok, bah c'est bon.
Ouais. En même temps, on comprend que ça puisse réveiller n'importe quelle mort, quoi.
Ah bah ouais, complètement. Hein, mais c'est vrai que ça tout de suite. On sent qu'on n'est plus, on est plus dans l'opta psychiatrique glauque, dans le passé de Freddy avec sa mère qui s'est fait violer par des fous. Enfin bon, il y a tout un truc comme ça. Donc c'est vrai que Ren Yarling s'amuse beaucoup plus là.
Bah, en tout cas, il y a une scène de transformation vraiment où une des actrices se fait transformer en cafard géant qui est incroyable.
Bah, très Cronenberg. Hein.
Bien sûr. Il y a une scène où, je ne sais pas si tu te souviens, où il mange une pizza avec des meatballs et les meatballs, c'est les têtes.
C'est les têtes de ses potes. Et je sais plus ce qu'il dit, mais c'est horrible. Tu vois vraiment, il plante la griffe d'abord dans la tête du gars, dans la meatball qui fait ah. Donc il arrache le truc et après, je sais plus, il dit une phrase encore horrible en mode moi tu devrais en goûter ou je sais pas quoi, et il croque la tête.
Franchement, c'est très très bien foutu. Et puis la mort de Freddy, évidemment, est vachement intéressante aussi, où il se fait déchiqueter par les âmes qui sont à l'intérieur de lui. C'est vraiment très graphique.
C'est parce qu'en fait, j'avoue, je confonds le. Dans ma tête,
le 4 et le 5.
Ouais, c'est terrible. Parce que le 6, il est tellement mauvais que je le comprends pas. Mais 4 et 5, j'ai une tendance à switcher un peu. Mais c'est là où, effectivement, t'as des espèces de bras qui l'accrochent de partout.
Qui sortent de son propre corps et qui lui déchirent la peau et tout. Non, Arlene, il met la barre très très haute au niveau visuel. Donc le 4, il faut vraiment le regarder en se laissant juste bercer par ces scènes-là, quoi. Et puis, le 5, autre réalisateur qu'on aime beaucoup, hein, parce que c'est Hopkins, Stephen Hopkins, qui réalise le 5. Stephen Hopkins, il est connu pour notamment Predator 2, qui est vraiment chambé. Franchement, je crois qu'on est assez aligné là-dessus. Et puis, c'est un des réals très importants de la série 24 heures. Hein. Il va avoir pas mal d'Emmy Awards avec ça.
Ça, c'est toi. Ça, c'est ton giron, ça.
24 heures chrono, toujours dans mon cœur. Et donc, voilà. Et pareil, là, je trouve que le film est... À titre personnel, je trouve le film pas dingue. Je le trouve peut-être un peu plus ambitieux visuellement que le 4 au niveau des cadrages, etc. C'est
celui que j'aime le moins, pour être honnête.
Ouais, le 5.
Ouais, parce qu'en gros, ce qui est marrant avec Freddy, c'est qu'on reprend toujours les mêmes personnages pour faire les suites. Donc en fait, il y a quand même une continuité à chaque fois.
Ouais.
Donc dans le 5, on reprend le personnage du 4 qui est maintenant enceinte. Et en fait, Freddy va essayer de se réincarner dans son fœtus. Et en fait, je trouve que le scénario est vraiment éclaté au sol, il est ridicule. Mais par contre, il y a des super scènes. La scène de fin, la course poursuite en mode Escher, qui est dingo. La scène, c'est dans celui-là où le copain se transforme en moto aussi.
Ouais, ça c'est très très bien.
Ouais, mais
ça, ça c'est très très bien ça.
Mais là, on sent déjà là, à partir du, enfin déjà dans le 5, ça y est, ça tire un peu sur la corde quoi. Moi, ça y est, c'est le moment où en fait je lâche un peu l'affaire et où je me dis que bon, je crois que j'ai vu assez de Freddy.
Mmh.
Tu vois, il y a un truc où tout marche moins bien.
Ouais. Mais à l'exception encore du père alcoolique.
Ah oui.
Je reviens sur ce personnage qui est éminemment vraiment très très secondaire, mais parce que pour moi c'est le seul personnage qui réagit normalement quoi. Et alors là, il entre dans les alcooliques anonymes et il essaye de retrouver une relation à peu près saine avec sa fille. Non, mais en tout cas, c'est une saga qui est, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est une saga qui est d'une richesse et d'une inventivité sans précédent. Moi, j'ai pas mal de mal à comprendre pourquoi, alors que on continue à sortir des slashers, disons plus classiques. Jason, il a quand même un héritage, il est toujours là. On a ressorti Halloween. Il y a eu des nouvelles sagas. Il y en a eu deux, hein, avec les nouvelles sagas Rob Zombie et puis les nouvelles sagas les derniers Halloween. Pourquoi Freddy n'est plus parmi nous, quoi?
Moi, je pense que vraiment, en fait, il est tellement incarné que je crois que, en fait, maintenant, ça fait. Je pense sincèrement que ça fait chier les prods, en fait. Parce que Ghostface, bah, c'est un masque, on s'en fout. Jason, bah, tu mets n'importe quel bodybuilder, bah, c'est fait. Chucky, en vrai, c'est juste une voix, et le gars vient tout juste d'être remplacé, quand même. Hein. Donc, ça fait pas si longtemps que. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur de Chucky, mais voilà. Leatherface, c'est un masque. Enfin, en fait, tu vois, le. Tout est en fait facilement remplaçable, alors que Freddy, je pense sincèrement, c'est beaucoup plus complexe. Un peu comme Pinhead, tu vois, où là, le remake qui a été fait, on l'a remplacé par une femme, en tout cas par. Enfin, le personnage est un peu ambigu sur ça, mais
alors attends, Pinhead, c'est la saga.
Jack
Barker.
C'est la saga Hellraiser.
Hellraiser, merci.
Et ça, c'est compliqué de switcher des personnages qui sont aussi iconiques en termes de visage et de caractérisation.
Mais tu sais si Englund, il veut pas re-signer ou il coûte demande trop
mais
de fric
il a 75 piges surtout.
Ouais, mais
tu vois,
il peut badiner à 75 ans.
Bah oui, c'est vrai que Eastwood le fait bien, mais tu vois, je pense que là, ça y est, il est.
Ah, il arrive au bout.
Ouais, c'est bon, 75, 76 ans.
Ah, c'est intéressant. Est-ce que vraiment la fin de Englund un jour met fin à cette saga?
Bah, il y a que lui qui l'a joué. Ah bon, il y a eu le remake, mais ouais. Le remake a pas marché, donc il y a pas eu de suite. Et là, il y a Chuck Russell il y a eu une interview de Chuck Russell il y a pas longtemps. Donc le mec de The Mask et qui a fait aussi le Freddy 3, qui disait que Jim Carrey ferait un très bon Freddy Krueger.
Ouais, c'est vrai.
Mais dans je vois pas Jim Carrey me faire flipper, mais il serait très bien dans la gaudriole.
Bah ouais, il faut transformer le boogeyman autrement, quoi.
Ouais, mais je sais pas s'il arriverait à avoir ce côté pervers. Effectivement, sinon tu te transformes complètement et tu t'en fais juste un clown. Mais Englund avait cette ambivalence-là d'être en même temps bizarrement drôle, bizarrement pas touchant, mais t'apprécies le personnage, quoi. T'apprécies les meurtres parce qu'ils sont fous.
Il est flippant et en même temps il est grotesque et en même temps
il est pervers
et en même temps c'est vrai qu'il arrive à jouer sur tous les tableaux et il arrive à trouver cet équilibre dont on parlait, c'est-à-dire d'être un peu théâtral, très théâtral et en même temps tout en étant dans un film de cinéma et ça passe quoi, ça passe.
Ouais, complètement, mais même on voit, pour parler brièvement du 6, même dans le 6 il y a des scènes où il joue à des jeux vidéo, il contrôle le personnage, enfin un des pauvres enfants qui va se faire tuer.
Réalisé par Rachel Talalay aussi.
Ouais, qui est vraiment un téléfilm, je trouve, hein, par ailleurs, mais qui est vraiment pas très bon. Mais il y a la séquence aussi où t'as quelqu'un qui est sourd et en fait il va lancer plein d'aiguilles et en fait le son il est à fond donc sa tête va à moitié exploser. Enfin, il y a plein de choses en fait. Il se transforme aussi au tout début, il se transforme en la vieille sorcière de l'Ouest. Enfin bon, il y a plein d'idées barjo et Englund, qu'il soit dans le glauque, dans le grotesque ou dans le malsain, en fait ça marche toujours quoi.
Freddy, c'est donc une saga qui s'étend de 1984 à 2010. Il y a 9 films, il y en a 7 originaux. Et puis, il y a le remake de 2010 et Freddy contre Jason de 2003. Il y a aussi une série télévisée entre 88 et 90 de 2 saisons. Les 7 premiers films, vous pouvez donc tous les retrouver dans ce magnifique coffret chez Warner Bros. Honnêtement, c'est une saga vraiment, vraiment de cinéma. On pourrait peut-être la croiser dans des comic books tellement elle est libre, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médiums qui pourraient vraiment rendre Freddy à ce qu'il est, quoi. Et c'est vrai, c'est, pour moi, c'est vraiment une saga de cinoche, quoi.
Ouais, complètement. Je suis 100% d'accord
donc,
avec ça.
Donc voilà, foncez découvrir ces films, éclatez-vous. Et puis, on se parle à la fin du mois pour un nouvel épisode de Popcorn et Banjo. Merci beaucoup. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et merci à Enrico Mastro Giovanni à la réal de cette émission. Salut à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.